Quelle espérance pour le troisième millénaire? Nous allons lire plusieurs versets pour commencer, quelques-uns au chapitre 29e du livre de Jérémie le prophète, à partir du verset 11e. Jérémie 29, 11. Dieu nous disant ce matin: car je sais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Mais quelle promesse! Au seuil de la nouvelle année, ceci nous renseigne justement sur les projets que le Seigneur a pour chacun de nous en tant que chrétiens, enfants de Dieu, rachetés par le sang de Christ. L'Éternel a des projets pour nous. Est-ce que ça vous réjouit, cela? Et ces projets, justement, nourrissent chez nous une immense espérance. Beaucoup plus qu'une grande espérance, une immense espérance. Et puis un autre texte assez connu que je pourrais citer de mémoire, en Romains chapitre 15 et au verset 13. Que le Dieu de l'espérance, écrivit l'apôtre, vous remplisse de toute joie, de toute paix, dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que c'est le cas pour chacun d'entre nous? Est-ce que nous abondons en espérance par la puissance du Saint-Esprit? Et est-ce que cette espérance que le Seigneur fait habiter dans nos cœurs nous remplit de joie, de paix? Vous allez me dire, ça n'est pas évident tous les jours. C'est vrai. Surtout en autant, hein, sur un plan collectif comme sur un plan personnel. Que de combats, que de luttes, que de périodes difficiles à franchir. Hein. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous, l'avenir a été pendant longtemps le monopole des prophètes, des mages, des voyants, des devins. Et c'est ainsi qu'est né un jour en Mésopotamie l'astrologie, à partir de prêtres babyloniens, lesquels scrutaient en leur temps ce qu'ils appelaient sur leur tête les lampes des dieux. Parce que l'homme a toujours été inquiet de connaître ses lendemains. C'est vrai ou pas? Et voilà pourquoi cette même astrologie de nos jours connaît un succès considérable. Vous en avez, nos astrologues, et qui ont trouvé des mines d'or en haut, et qui s'enrichissent sur la crédulité du plus grand nombre. Et ceci jusqu'au plus haut niveau de nos sphères, où que ce soit, en tout cas dans mon pays, 15 millions de Français consultent les astrologues. L'homme étant toujours inquiet de savoir ce qui va lui arriver, Bien entendu que la plupart de ces astrologues passent de la pommade, hein, dans le dos, très souvent. Oui, et puis après eux, les devins romains, après ces prêtres babyloniens, n'est-ce pas ? Les devins romains interrogeaient les entrailles d'animaux sacrifiés à leurs idoles ou encore les vols d'oiseaux, croyant y lire certains augures, certains présages. Plus tard, en France, un certain Michel de Notre-Dame, passé à la postérité sous le nom de Nostradamus, a cru déchiffrer l'avenir du monde en scrutant lui aussi le ciel clair de sa Provence natale. Non, je ne baptisais personne. Hein. Il écrivit tout ce qu'il put sous la forme de centurie, encore bien lu de nos jours, vous le savez, hein, à propos justement d'une prophétie qui aurait dû s'accomplir pour détruire Paris. Hoche, Paris le 13 août dernier. Et le 13 août dernier, tombait le jour de notre 39e anniversaire de mariage avec Jeanne. Alors on s'était dit, qu'est-ce qu'il raconte ce Paco Rabanne ? Et puis aussi la ville d'Auch, où devait finir lamentablement un satellite, etc. Et tout ceci ne s'est pas accompli. Ô Dieu, dans sa parole, au Deutéronome, au chapitre 18, a dit ce qui suit. Comment saurez-vous que la parole dite par un faux prophète, eh bien, sera une fausse parole, qui ne viendra pas de moi, quand cette parole ne trouvera pas sa réalisation? Ce même Nostradamus avait donc annoncé la mort du pape en 1986 à Lyon. Alors ceci avait fait trembler nos autorités en France, qui avaient multiplié une sécurité autour du pape, quelque chose d'inouï. Jusqu'aux hélicoptères, littéralement, qui tournaient autour de lui. Et on avait eu peur que cette prophétie de Nostradamus ne se réalise. Mais pensez-vous, il a pu rentrer tranquille à Rome. Hein. Et là encore, ça ne s'était pas réalisé. Tandis que lorsque Dieu parle, oh, ça se réalise. Hein. Sa parole et ses promesses étant du roc, c'est du sûr et c'est du solide. Tandis qu'aujourd'hui, toujours inquiet de connaître notre avenir, nous l'avons confié à la science. Et c'est ainsi que, oui, de nouvelles sciences ont vu le jour, comme celle de la futurologie, de la prospective, lesquelles, à partir d'ordinateurs et de nos problèmes actuels, essaient de sonder notre avenir. Parce qu'il est tellement incertain qu'il n'est plus possible de prendre de grandes décisions concernant l'avenir du monde sans essayer de le connaître quelque peu. Alors on fait appel à des ordinateurs ultra perfectionnés. Mais lesquels transpirent ? Lesquels sont inquiets parce que la plupart du temps, ce qu'ils nous font connaître de l'avenir du monde n'est pas du tout encourageant à entendre. Vous savez, des prophètes dans le passé parcouraient le monde en annonçant, n'est-ce pas ? Des temps cataclysmiques de la part de Dieu pour ce qui est de la fin des temps, se fondant bien entendu sur des textes comme ceux d'hier soir et sur d'autres textes des Saintes Écritures. Mais on leur riait au nez en ce temps-là, tandis qu'aujourd'hui, ce sont nos ordinateurs qui nous inquiètent. Quant à notre avenir, alors là, on reste bouche bée, on ne sait plus que dire. Tenez, Billy Graham, il y a quelques années, et avec son équipe, avait interrogé aux États-Unis l'un des plus perfectionnés des ordinateurs là-bas. Et après lui avoir communiqué toutes nos crises, nos problèmes, nos difficultés, etc., ils avaient attendu le souffle retenu pour savoir ce que cet ordinateur dirait de notre avenir. Ils avaient été inquiets, hein ? Alors, ils avaient entretenu justement cet ordinateur des guerres, des famines actuelles, des crises, du chômage, etc., de tout ce que l'homme connaît de difficultés, de... Et la réponse arriva, à peu près semblable à celle que le Christ, c'est Billy Graham qui un jour nous a dit ça, au cours d'une réunion entre serviteurs de Dieu, on avait attendu la réponse, nous avait dit Billy Graham, elle arriva, mais alors sans bavure, avec une précision, l'ordinateur ayant répondu textuellement, la génération ne passera pas, avec tous ces problèmes. Mais là, c'est pas Billy Graham qui a dit ça, d'ailleurs, il avait pris cette précaution, hein, de se retrancher derrière l'ordinateur qu'il avait rendu responsable de cette déclaration. Nos ordinateurs s'en sont angoissés. Ils transpirent, et c'est vrai que des savants, des experts, des chercheurs informaticiens, aujourd'hui travaillent à sonder ton avenir et le mien, mais sur un plan strictement humain. Le club de Rome avec lequel j'ai été en relation pendant pas mal d'années, je ne sais pas comment il avait pu se faire que je sois en relation avec lui, il m'envoyait certains résultats de ses travaux, et puis un jour j'avais pu lire de la part de son directeur, textuellement, notre monde court à la catastrophe si nos tendances actuelles se poursuivent. Alors ça, c'est encore la science qui parle, hein. L'ordinateur, à partir de sa rigueur mathématique et électronique, il nous fait trembler. Mais pour ce qui nous concerne, vous savez, même la futurologie n'est pas une science exacte, heureusement. Mais pour ce qui nous concerne, nous ne nous attendons pas à la futurologie, ni à la prospective, ni à Nostradamus, ni à ce nombre invraisemblable de ceux et celles qui veulent prédire notre avenir. Il y a pléthore de gourous de nos jours un peu partout dans le monde et qui s'enrichissent sur notre crédulité parce que nous sommes tellement déboussolés que nous sommes prêts à payer pour savoir quelque chose de nos lendemains. Eh bien, avec le Seigneur, ça n'est pas du tout ainsi. Le Seigneur nous dit, je sais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et pour vous donner une espérance. Pour moi qui vis en région parisienne, quand je regarde aux Parisiens, je ne sais pas si les Bruxellois, c'est la même chose, hein. Les Parisiens, le matin surtout, hein, quand ils vont au travail, hein, avec des cernes jusqu'aux genoux, il faut les ramasser comme ça, hein, avec des regards comme fanés, hein, parce qu'ils n'espèrent plus rien. C'est à contre-cœur qu'ils vont au boulot, hein, c'est ça ? Comment est-ce qu'on va au travail, nous, hein ? En sifflotant ou avec des têtes d'enterrement? Ah, que c'est dur. En tout cas, nous avons un Dieu qui est le Dieu de l'espérance. La Bible le nomme ainsi. Et puis la Bible dit que il arrive à ceux qui, justement, n'ont pas leur confiance en Dieu, que leur espérance périra. Cette espérance dont nous parlons ce matin n'a rien à faire avec tous ces petits espoirs que les hommes ont coutume de caresser de manière intime très souvent, mais lesquels petits espoirs, pour la plupart d'entre eux, vont lamentablement finir au cimetière de nos illusions mortes. Rien que c'est vrai. On a espéré. Espéré encore. Espéré toujours, et puis voilà. Rien ne s'est passé. Un enterrement de plus quant à ce que nous avons espéré. Mais voyez-vous pourquoi cette différence? Parce que celui qui a fait les promesses d'espérance contenues dans les Saintes Écritures est fidèle, dit la Bible. Il est fidèle. Il ne cherche pas à tromper. Hébreux 10, 23, il est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. À l'épreuve du temps, hein? Et puis aussi, en Romains 5, 5, il est écrit que Dieu ne peut pas tromper celui qui s'attend à lui, parce qu'il a répandu son esprit dans son cœur. Et avec son esprit, évidemment, son amour. Et il faut aussi savoir que le terme espéré en grec, Elpizo, hein, pour ceux qui en ont fait un peu comme c'est mon cas, et le terme espéré en français n'ont rien ensemble. Dans le mot espéré en français, il y a à boire, il y a à manger, il y a tout ce que vous voulez, hein. Et pour le résumer, ce mot, on peut dire que espérer en français égale peut-être ben que oui, peut-être ben que non, hein. C'est ça, hein. C'est une expression qui nous vient droit de Normandie. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Il y a tout ce qu'on veut dans le terme espéré. Ce qui va venir, j'espère. Tandis que le terme grec, attention, ne laisse pas la place au doute. Toutes les fois où vous rencontrez ce terme dans le Nouveau Testament, il ne laisse pas la place au doute. Espérer dans le Nouveau Testament signifie être sûr dans son attente. C'est être sûr que ce que nous attendons va se passer. La foi étant la quoi ? Ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est quelque chose, hein ? Nous espérons le Seigneur pour bientôt. Mais c'est sûr qu'il va venir. Et ce n'est pas parce qu'il tarde qu'il ne va plus venir, n'est-ce pas? Simplement qu'il ne veut pas que bien des hommes et des femmes périssent. Il use de patience, dit la Bible, pour que le plus grand nombre en arrive à lui pour leur salut. Oui, le terme espérer en grec, mais c'est toute une prédication, hein. Ça n'est pas notre sujet de ce matin, en partie, mais enfin, c'est remarquable. Et la Bible dit que notre espérance est bienheureuse. La bienheureuse espérance. Tite 2, 13. La bienheureuse espérance, tous ceux qui la possèdent, eh bien, en fait, sont remplis du bonheur de cette espérance. Jusqu'au seuil de l'éternité, il y a peu de temps en Alsace, avec le pasteur qui m'avait invité pour une campagne à Strasbourg, nous avions été à Bethesda, à l'hôpital de protestants de Strasbourg, pour visiter un homme qui était en train de quitter ce monde pour le ciel, pour la gloire. Alors ce frère était allongé sur son lit de maladie et de mort, hein, puisqu'il était mort là peu de temps après. Et nous lui lisions des versets de la parole sur l'espérance chrétienne. Lui ne pouvant plus parler, respirant très difficilement, mais de temps en temps il avait encore la force, hein, tandis qu'il était couché, de pointer le ciel. C'est fou ça. De pointer le ciel. Alors son pasteur lisait quelques versets, après lui j'en lisais d'autres, etc. On se relayait, puis de temps en temps il levait l'index au ciel. Il nous semblait qu'il y était déjà arrivé, hein. Vous savez que notre espérance nous ouvre une fenêtre sur le ciel. C'est fantastique, ça. Elle nous tient chaud au cœur. Voilà pourquoi c'est une espérance bienheureuse. Et l'apôtre de poursuivre, cette espérance est vivante. C'est pas une espérance morte. 1 Pierre 1:3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. De quelle façon? Par la résurrection de Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni flétrir ni corrompre, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et c'est ce qui fait votre joie. Mais quelle parole, quelle espérance, hein, que celle du Dieu de l'espérance qui la met dans nos cœurs. Elle est vivante parce que centrée sur un sauveur vivant. Elle est vivante parce que se nourrissant de la parole vivante et permanente de Dieu, elle est vivante parce qu'elle est dans l'attente de la plénitude de la vie en Christ. C'est ça notre espérance. Et nous avons besoin d'entendre et de réentendre ce type de choses, parce que, comme je le disais d'entrée de jeu tout à l'heure, nous traversons des moments réellement difficiles dans lesquels même nous pleurons. Hein. Nous pleurons en cachette. Moi, je le dis, c'est vrai pour moi en tout cas. Hein. Et je crois que c'est vrai pour beaucoup. Mais quelle joie d'être animé de cette espérance. Et parce que vivante, dit la Bible, cette espérance résiste au doute, au désespoir. Elle nous tient ferme, ancrée en Christ, au sein des plus grandes tempêtes de la vie. Et nous en avons des tempêtes. La Bible dit que nous la possédons comme une ancre de notre âme, que nous avons déjà jetée au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, nous l'avons jetée comme une ancre dans les eaux paisibles du port éternel. Cette espérance nous attache déjà. J'allais dire au quai céleste du royaume du Christ. C'est une espérance qui encourage, Hébreux 6, 18. Une espérance qui console. Et puis, dit l'apôtre, encore une espérance glorieuse. Pourquoi? Parce qu'elle est dans l'attente de la manifestation de Christ à son Église quand il viendra nous prendre. Et dans ce jour-là, oh, puisse-t-il venir bientôt, même avant le troisième millénaire? Peut-être, pourquoi, hein? Ouais, ouais. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de finir ce culte. Vous en diriez quoi? D'accord ou pas? Moi, je suis d'accord de partir de Bruxelles. Hein. Et ma femme de Paris, on se rejoindra là-haut. Hein. Oui, une espérance glorieuse. Nous n'avons pas de date, mais nous avons des signes. Et puis, des signes des temps, hein, nous en avons rappelé pas mal tout à l'heure, plutôt dans les soirs passés. Et puis l'apôtre décrire, par exemple, ce qui va se passer dans ce jour du retour du Christ pour les siens, pour son Église, venant les prendre à lui, venant la prendre à lui. Et Philippiens 3:20, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi pour sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Pourquoi est-ce que nous souffrons aujourd'hui, tout chrétien que nous soyons, disons que de luttes, de crises, de problèmes, parce que nos corps qui ne sont pas encore rédentés, le Seigneur n'a pas sauvé que des âmes à la croix, il a sauvé des êtres entiers. Seulement voilà, pour le temps présent et jusqu'à son retour, nos âmes le sont, mais habitent encore des corps qui ne le sont pas, d'où nos luttes. Hein. Tout ce que nous connaissons de l'apôtre Paul aux Romains, la vieille plante, plutôt l'homme nouveau, le vieil homme, la vieille plante, etc., la nouvelle plante, etc. Alors quel conflit, quelle bagarre, hein, quelle difficulté. Mais non, au jour du retour de Christ, tout ceci prendra fin, des corps rédemptés, oh, sauvés. Ah, quand je pense à cela, je pense à notre cher Jonathan, hein, à notre cher, je ne connais pas ton nom, il n'y a pas de voiture comme ça aussi, hein. Ça, je pense que vous le savez, hein. Ah, gloire à Dieu, hein. Quand je pense à notre cher Raymond, hein, avec tous les problèmes qu'il a, et les autres, des corps semblables à celui du Christ, nous le verrons tel qu'il est. L'apôtre Jean a rejoint l'apôtre Paul lorsqu'il écrivit en 1 Jean 3, 2 et la suite, « Bien-aimés, nous sommes enfants, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables au Christ parce que nous le verrons en face, tel qu'il est. » Oui, oui, parce que présentement, tout chrétien que nous soyons, n'est-ce pas, nous ne pourrions pas nos corps encore qui ont en eux une semence de péché, de poison et de mort, ne pourraient pas supporter l'écrasante majesté, l'écrasante beauté du Seigneur. Ils ne pourraient pas, n'est-ce pas, quand nous pensons à Daniel, quand nous pensons à Moïse, quand nous pensons à Jean sur l'île de Patmos et à tant d'autres, hein, ils s'étaient écroulés littéralement, heureusement que Dieu les avait... on ne pourrait pas, si le Seigneur entrait maintenant par cette porte-là, je crois qu'on sortirait tous par l'autre. En tout cas, on serait tous le nez par terre. Hein. Alors, il nous faudra des corps, j'allais dire, adaptés, à l'environnement de Dieu, parce que sinon ils en craqueraient. Alors moi, quand je pense à ça, plus de diabète, j'aurais plus mes 18 pilules par jour. Même les médecins souvent se regardent de travers à mon sujet. Alors si j'ai 18 pilules, ce sont eux qui l'ont décidé, hein, c'est pas moi. Alors un autre médecin que j'ai vu m'a dit « Vous prenez trop de pilules, il faudra arrêter un peu ça ». Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, j'en sais rien. Vivement qu'il revienne, ce sera clair. C'est fou, à cause d'un diabète de 36 années. Hein. Fini le diabète, fini les rhumatismes. Hein. Moi, je commence à en éprouver ici et là, ça arrive comme ça, etc. Vous, plus de rhumatisme dans les corps glorifiés. Mais vraiment, nous serons alors pleinement sauvés, corps, âme, esprit, dans ce grand jour du retour de Christ. Et puis, pour finir, c'est une espérance qui sauve. Vous savez, cette espérance sauve. L'apôtre écrivit aux Romains, au chapitre 8 et au verset 24, je dis cela, pour ceux qui ne le seraient pas encore parmi nous ce matin dans ce lieu, l'apôtre écrivit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Il y a quelque chose ici qui ne tourne pas rond. Parce que qui parle généralement d'espérer, eh bien, emploie le futur. L'apôtre aurait dû dire, c'est en espérance que nous serons sauvés. Il ne dit pas cela. Et voilà qui est merveilleux. Il dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous le sommes déjà. Ça n'est pas une affaire à venir. C'est déjà fait. Une espérance qui sauve maintenant. Elle est tellement sûre, tellement solide, que cette espérance met notre avenir au présent. Ça, vous ne trouverez jamais espérance de ce type nulle part ailleurs sur cette terre. Et qu'il est bon de le rappeler. Et pour posséder cette espérance, l'apôtre avait dit, eh bien, Colossiens 1, 27, Christ en vous. Alors quoi ? L'espérance de la gloire. Alors nous allons bientôt quitter Bruxelles, et moi à Paris. Je dis bien bientôt, parce que le Seigneur a dit, lui aussi, je viens bientôt. Nous allons quitter, Dieu le fasse, le plus vite possible, pour être éternellement avec lui, dans son royaume de paix, dans le royaume du Fils de son amour, dans le repos éternel, dans la félicité éternelle et dans la contemplation perpétuelle de la majesté divine. Moi, je n'en reviens pas. Alors, on crie au Seigneur, viens bientôt. C'est vrai qu'on voudrait qu'il vienne, mais tant et plus d'hommes et de femmes ne sont pas encore sauvés. Et c'est à eux que le Seigneur pense. Beaucoup plus que nous, hein, est-ce que nous y pensons ? Moi, je suis à la retraite depuis un an et demi. J'aurais pu préparer cette retraite dans un coin de campagne avec ma canne à pêche. Et le Seigneur m'a dit non. Oui, la pêche toujours, mais vers les hommes. Alors voilà, on continue parce que c'est un grand message. Dans la force que Dieu donne, je sais que je ne peux plus continuer. Déjà cette année, j'ai dû pas mal ralentir, l'an prochain encore davantage. Je ne peux plus, je n'arrive plus, c'est vrai. Je ne peux plus tenir 4 campagnes par mois comme ça a été le cas pendant des années. Et même j'en arrive maintenant à plus d'une campagne, pas plus d'une campagne par mois. Alors, on continue tant que la possibilité nous en est donnée. Mais surtout, ce matin, est-ce que réellement cette espérance est en nous ? Ou est-ce que nous avons fini d'espérer ? Il est tellement important, comme l'ont chanté hier nos amis africains, là, hein, de regarder en haut, de regarder encore en haut. On rapporte, je terminerai avec cela, l'histoire d'un moussaillon, un apprenti marin qui apprenait le métier de marin, sur son bateau. Et évidemment, parce que sur le bateau, il avait tous les jours l'occasion d'en voir monter jusqu'au sommet du mât du navire, mais des marins plus expérimentés que lui. Il les enviait, il avait hâte d'entendre son capitaine lui dire « Allez mon gars, vas-y, c'est maintenant pour toi, c'est ton tour ». Quand enfin l'ordre tomba, et puis notre ami Moussaillon de grimper à ce mât, hein, jusque là-haut, dans les années passées, il y a bien longtemps. Seulement, voilà, il manquait d'expérience pour monter à ce mât sans problème, une fois là, arrivé là-haut. Hein. Alors, la mer bougeait quelque peu, etc. Il vit son bateau bouger. Il n'en avait eu aucune expérience. Il vit les bateaux autour du sien bouger. Tout semblait vaciller quand son capitaine le vit en difficulté là-haut et lui lança d'une voix forte « Regarde en haut, lève la tête !» Ce qui le sauva d'une mort certaine. Oh, que je voudrais que nous entendions la voix de notre capitaine nous dire ce matin, surtout dans nos situations difficiles, hein. Regarde en haut. Lève la tête, n'est-ce pas? Jésus l'a dit, hein, quand vous verrez ces choses commencer d'arriver, quoi? Levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Puisse-t-elle donc, cette délivrance, être à la porte? Oh, pour notre joie et pour la gloire de Dieu. Amen, amen.